Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.
Je fis ce que voulait maman. J'épousai Monique et dis adieu à l'école. Désormais, il fallait vivre en homme. Dans une lettre, je fis part de mes sentiments à mon ami M.L. La vie s'est ouverte à moi sans transition. Ma vie, je voulais la former silencieusement. J'écoutais le monde et ses idées. J'observais les hommes, leurs actes, et j'essayais d'en tirer un enseignement qui pût diriger mon existence et lui donner le sens dont j'ai toujours rêvé. Hier encore, j'étais à l'apprentissage. Aujourd'hui, je suis entré dans ce théâtre et d'orgueil et d'horreur qu'est le monde sans avoir fini ma formation. J'ai toujours pensé que malgré les difficultés, je sortirais vainqueur de la lutte que l'homme doit mener sur terre. Mais les premiers coups que je viens de recevoir m'ont ébranlé. On pourrait même me croire vaincu, mais je crois qu'on est vaincu que dans la mesure où l'on accepte sa défaite. Jugez donc de ce que le sort a fait de moi. J'aime ardemment une jeune fille qui n'est pas de la même classe sociale que moi et qui ne m'aime pas. J'ai eu une aventure avec une autre jeune fille que je n'aime pas et que je suis obligé d'épouser immédiatement sous peine d'aller passer 5 ans en prison. Ma mère même m'a poussé à épouser cette fille et à quitter l'école. Elle dit être vieille et lasse. Elle ne peut plus s'occuper de moi et de mes petits frères. Pour elle aussi, l'histoire de la jeune fille est devenue un bon prétexte pour me faire quitter les bancs. Ah, vous souvenez-vous? Un jour, je vous parlais de notre grandeur, celle qui consiste à obéir à nos parents et à les aider à achever tranquillement leur vie passée à notre service. J'étais fier de ce sacrifice. Je sais maintenant le goût amer de l'épreuve. Cependant, je ne regrette pas. Je n'en veux pas à ma mère. Nous sommes la génération de la transition entre deux civilisations. Nous sommes la génération du sacrifice. Un de mes jeunes camarades européens m'avait dit au collège que nous, jeunes noirs, nous inventions nos problèmes, nos malheurs. J'ai répondu que s'il avait compris René, il n'y avait pas de raison qu'il ne nous comprenne pas. René, lui, avait inventé son mal. Nous n'avons rien inventé. Dans tous les domaines, nous aurons à souffrir. Car entre la tradition d'un passé glorieux et l'éblouissante vie de la civilisation blanche, l'option est impossible, la synthèse délicate et incertaine. Car on a voulu que les principaux fondements de l'une quelconque de ces deux civilisations détruisent ceux de l'autre. Je n'en veux pas à ma mère, mais j'en ai après ma femme. Elle a détruit mes rêves. Ma mère m'aurait laissé continuer mes études si je n'avais pas été obligé de prendre femme. Une chose est certaine, je n'aime pas cette fille. Je ne peux donc vivre avec elle. Elle devra partir. Comment m'y prendre? Je ne sais encore. Mais son père regrettera de m'avoir forcé à épouser sa fille et à gâcher ma vie. M.L. répondit à ma lettre. Il était très surpris par la brusquerie des événements qui étaient survenus. Il me conseillait du calme et disait qu'avec un peu de bon sens et de réalisme, je pouvais organiser mon existence et vivre heureux avec ma femme.
Ta femme, je te conseille de la respecter si tu ne peux pas l'aimer. En tout cas, évite de lui faire du mal, car je ne pense pas qu'elle soit seule responsable de ce qui est arrivé. Et bientôt, il te faut du réalisme. Sans cela, tu commettras de graves erreurs. La vie, évidemment, est bien autre chose que le rêve. Tu t'en rends d'ailleurs déjà compte.
Oui, bien sûr. je m'en rendais compte. Monique vint chez moi à Akounoubé. La vie conjugale commença et la situation m'apparut dans toute sa gravité. Je n'aimais pas Monique. Je me mis à la détester car, n'étant plus une amie, elle devenait pour moi un lien d'épine. Je la reçus avec froideur. Elle accepta cet accueil avec humilité. Monique, était-ce ma faute si je ne t'aimais pas? Au collège, il est arrivé un moment où j'avais eu nécessairement besoin d'amour. Alors autour de moi, je sentais comme un vide, quelque chose de vague et de mélancolique, et j'avais cherché la jeune fille qui put me plaire et combler ce vide. Dans la cour de ton père, j'avais fini par m'habituer à toi, Monique. Je n'avais jamais envisagé la vie à tes côtés. Et puis, j'avais rencontré Muriel. L'image de la jeune fille répondit à l'idéal que j'avais créé. J'y portais tout mon amour et toutes mes espérances. Oui, j'avais rêvé à l'amour, mais je n'avais pas songé à un mariage si brusque. Vois-tu, Monique, tout s'opposait à un bonheur possible du couple que nous avions formé si prématurément. Lié à Monique, je me trouvais livré au problème d'un chef de famille. Ah oui, j'avais fini de compter sur ma mère. Désormais, l'on devait compter sur moi, d'où l'urgence de trouver du travail. Partis à Abidjan chercher à être employé dans un bureau comme commis. Je ne connaissais pas Abidjan, l'Abidjan des affaires. Comment trouver du travail sans spécialisation, tout seul, sans aucune relation? Je m'inscrivis à l'office de la main-d'œuvre et chaque jour, plein d'angoisse, j'allais au renseignement pour en revenir encore plus découragé. Moi et Binto, le brillant élève de Bassam. Moi dont les professeurs parlaient et à qui ils prévoyaient un avenir assuré, je n'en revenais pas d'en être réduit à ce stade par un caprice du destin. Une nuit, une seule nuit, d'un bonheur de jeunes gens innocents et toute une vie d'enfer. Quelquefois, je traînais par les rues et poussais l'audace jusqu'à entrer dans un bureau et à bégayer. « S'il vous plaît, je cherche un emploi. » Alors on me disait
« Adressez-vous à la main d'œuvre. »
Ou on me demandait
« Que savez-vous faire ?»
J'ai le BEPC.
Simplement ? Sans spécialisation ?
Hélas, non. Mais j'apprendrai facilement.
Laissez votre adresse, on vous écrira s'il y a quelque chose pour vous.
Et je partais recommencer ailleurs. Et j'avais fini par savoir à peu près les questions que l'on me poserait dans telle ou telle entreprise. Oh, j'aurais accepté n'importe quoi. Que m'importait l'air hautain des chefs de service auxquels je m'adressais? Le soir, je rentrais tout fatigué et découragé. Je mangeais et dormais chez mon cousin. Je n'y étais pas à l'aise car je gênais mes hôtes dans une maison avec une chambre à coucher et un petit salon. La nuit, étendu sur une natte dans le salon de mon cousin, je ne pouvais plus séparer la réalité du songe. Car ma vie, c'était Muriel et moi dans notre maison avec notre enfant dans son berceau. C'était nous, pleinement heureux d'une réussite due au travail. Mais le matin, quand je me levais très tôt et sans déjeuner, cheminais vers l'office de la main-d'œuvre, je me rendais alors compte que la réalité c'était Monique qui m'attendait à Akounoubé. C'était le besoin urgent d'avoir une profession. Partout j'ai cherché à travailler, à être vendeur dans un magasin, petit secrétaire dans un bureau, enfin n'importe quoi. J'ai traîné dans toutes les rues, frappé à toutes les portes, étalé aux yeux de tous ma bonne volonté. Mais cela ne suffisait pas. J'avais fini par avoir des connaissances à l'office de la main-d'œuvre. C'était des pauvres diables, comme moi, en quête d'emploi. Nous devîmes amis pour être logés à la même enseigne. Un jour, l'un de mes nouveaux amis me conduisit chez un monsieur cossu qui nous signifia qu'il pouvait nous aider moyennant une certaine somme. Je n'avais pas d'argent. Mon ami, lui, avait 7000 francs. Il les donna au monsieur. Les jours suivants, je ne vis plus mon ancien compagnon d'infortune. Il avait sans doute trouvé du travail. Moi, j'attendis que le ciel ou le hasard me vînt en aide. J'attendis longtemps, je ne sais plus combien de temps. Enfin, un jour, à la main d'œuvre, on donna suite à ma demande d'emploi. Un grand planteur de bananes voulait un jeune homme assez instruit et dynamique comme contremaître. Il voudrait mieux dire chef manœuvre. J'acceptai avec plaisir. À Kounoubé, à Diaké, à Boisseau, à Yamé, nous nous arrêtions à chaque ville, le temps d'emprunter une autre voiture. À Yamé était la dernière escale avant d'arriver au champ où j'allais être contremaître. À Yamé était une ville nouvelle, plus exactement un village moderne. Le bac de retenue de la centrale hydroélectrique avait inondé de nombreux villages dont le plus important portait le nom d'Ayamé. Ces villages engloutis s'étaient réunis et un gros village avait surgi tout près du barrage. Il se nomma Ayamé. Ces maisons, construites selon trois plans, étaient bien alignées. Toutes étaient enduites et couvertes de tôle. Le gros bourg était éclairé et un grand château d'eau donnait l'eau courante. Mais Ayamé, trop brusquement sorti du concept de village, n'arrivait pas à s'adapter à sa nouvelle nature de ville, d'où le calme plat qui l'écrasait. C'est de là que nous empruntâmes un camion de la plantation. Une heure plus tard, nous y étions. C'était un coin perdu dans la forêt. Le terrain plat et boueux était entouré de montagnes. Une véritable forêt de bananiers occupait toute la surface irriguée. Les logements des manœuvres étaient groupés. On m'y montra mes appartements, une chambre et une véranda. Là était ma vie. La fin de mes illusions et la prise de conscience d'une réalité longtemps réfutée. Là était l'amertume. De l'amertume vint la révolte. Révolte contre quoi ? Dans mon esprit, j'ai eu l'idée de ce que j'étais, rien d'autre qu'un raté. Et ce, par une circonstance aussi futile qu'une aventure avec une fille Monique que je n'aimais même pas. Ah, Monique, toute ma colère s'était abattue sur elle. Oui, tout cela était de sa faute. Ce ne serait pas arrivé si un soir, elle n'était pas entrée dans ma chambre de collégien. La colère d'un jeune homme sérieux est calme et terrible. Elle n'est pas furieuse, elle est froidement cruelle, car elle provient de blessures profondes. Je me mettais rarement en colère. J'ai toujours essayé de comprendre même ceux qui m'avaient fait du mal. J'expliquais leurs gestes et je pardonnais. Au collège, des camarades me trouvaient faible parce que je ne causais pas d'ennui au professeur. On me traitait même de lâche. Le mot était à la mode au collège, parce que j'obéissais minutieusement aux consignes disciplinaires de l'établissement. Je n'avais jamais rien répondu à ceux qui me tenaient ces propos. Je leur souriais. C'étaient des inconscients et ils ne pouvaient pas comprendre que j'étais capable de haïr et d'être cruel aussi bien que d'aimer. Et je me rappelais la phrase d'Arcel. Il est des êtres qui répugnent à s'insurger quotidiennement contre des détails qui n'en valent pas la peine. Et puis, un jour, l'on verra ces êtres prendre une décision que nul de ceux qui leur reprochaient leur apathie n'était capable de prendre. Jusqu'ici, j'avais considéré les hommes avec amour. La colère d'être un rien du tout m'ouvrit une autre voie, le mal. Et curieusement, je me souviens de Maldoror, qui fut bon pendant ses premières années et qui s'aperçut ensuite qu'il était né méchant, fatalité extraordinaire. Pourtant, j'ai essayé de ménager Monique, de la traiter avec douceur. C'était les derniers sursauts de bonté d'un homme révolté. Je crois qu'il n'y a rien de plus tragique que la vie d'un homme sérieux, déçu dans ses ambitions par une réalité médiocre. Blessé dans son amour-propre, il peut se métamorphoser, devenir un individu peu recommandable. La douleur l'aveugle. En le tourmentant, il cherche un moyen pour échapper à la misère. Souvent, il y voit le mal. Cet homme peut être sauvé par les circonstances. Un ami qui le conseille et le guérit. Un événement qui change sa vie. Si rien de cela n'intervient, il sombre alors dans le vice et arrive facilement au crime. J'avais Monique pour me consoler et m'aimer. Mais la jeune fille était la cause de ma blessure. Et au lieu de voir en elle une amie, j'en fis une ennemie, de qui il fallait se venger en même temps que d'un monde injuste. Je me mis au travail. Il consistait à surveiller environ 150 manœuvres, à veiller à ce qu'ils fassent correctement leurs tâches. Je devais faire des rapports réguliers qui pouvaient influer sur les salaires de ces manœuvres. Je m'occupais aussi du recrutement du personnel alors que M. Rouget, notre patron, gérait la vente des bananes et les finances. M. Rouget était un gaillard d'une quarantaine d'années et doté d'une solide constitution physique. Pied noir d'Algérie, il avait eu des parents aisés. Aimant l'aventure, il s'engagea dans l'armée française. Il eut à combattre en Indochine. Rentré en Algérie, il se heurta à la guerre d'indépendance de ce pays. Ce furent les massacres de part et d'autre où il perdit ses parents et presque toute sa fortune. C'est alors qu'avec des fonds relativement modestes, il gagna la Côte d'Ivoire et créa sa plantation de bananes. J'appris tout cela de la bouche même de M. Rouget au cours de nos entretiens hebdomadaires.
Voyez-vous, Ebinto, la vie n'a pas été facile avec moi. J'ai été dur avec elle. J'ai prévenu les coups.
Je ne suis pas partisan du libre arbitre et je pense que beaucoup de circonstances font de notre vie une réussite ou un échec.
Le problème est de savoir exploiter ce que vous appelez circonstances. Il faut savoir prendre l'initiative, être un homme d'initiative, tout est là.
Je pris l'initiative, non de lutter pour mon bien-être, mais d'être un démon. J'exigeais des manœuvres, une discipline et un travail militaire. Le moindre retard était sanctionné. Les travailleurs de la plantation se mirent à me détester. Ils me mettaient dans le lot de ces gens à la solde du blanc. Je me moquais de leurs souffrances, je riais de leur misère. Je voulais en faire des robots. Le blanc, lui, m'aimait. Avec un contremaître pareil, les affaires marchaient comme sur des roulettes. Mais en vérité, cela ne me faisait ni chaud ni froid qu'on me détestât ou qu'on m'aimât. Je crois que je voulais trouver du plaisir à faire le mal. Monique, appelle-moi Kaboré.
Ah, eh ben, tu sais qu'il est malade?
Cela ne te regarde pas. Appelle-le. Un instant plus tard, le nommé Kaboré était devant moi. Il était maigre. Ses yeux jaunes s'enfonçaient dans ses grandes orbites. Il tremblait de froid ou de peur. Cela fait un mois que tu ne travailles pas, Kaboré.
Je suis malade, monsieur.
J'ai voulu que tu ailles à l'hôpital et tu as refusé.
Monsieur, le blanc ne connaît pas le médicament de Gyakwadjo. C'est pour cela que je me soigne à l'indigène.
N'étant pas allé chez le docteur, tu n'as donc pas eu de congé réglementaire. Nous ne savons pas l'importance de ta maladie. Peut-être peux-tu travailler et fais-tu le malin. En tout cas, le patron et moi avons décidé que tu n'auras que le tiers de ton salaire. Et c'est bien payé, car si chaque manœuvre s'amusait à jouer au malade, ce serait la ruine. Kaboré me regardait de ses yeux fiévreux. Ses lèvres tremblaient imperceptiblement. Et je crois qu'il aurait pu me tuer s'il en avait eu la possibilité.
Vous êtes méchant, monsieur Ebinto.
C'est inutile de me le dire, je sais. Maintenant, sors d'ici.
J'ai pitié de vous.
Pour le moment, je crois que c'est plutôt toi qui es digne de pitié. Il sortit et Monique entra.
Mais ben, pourquoi veux-tu attirer la haine de tous les hommes?
Cela ne te regarde pas. Et puis, laisse-moi en paix.
Je t'en prie, surtout, Ebin, ne fais pas un effort pour devenir méchant.
Non, cela n'a pas besoin d'un effort, c'est si facile. Allez, dehors. Elle ne sortit pas. Elle me fixa d'un regard qui m'aurait fait réfléchir toute une journée si je n'avais pas été un autre Ebinto. Oui, j'étais devenu un autre, ou plutôt
J'avais acquis ma vraie nature. J'étais devenu amer, vulgaire, méchant et cynique. Je savais que Monique souffrait de cette métamorphose et je voulais surtout la faire souffrir, elle. Pendant des jours entiers, je ne parlais pas à Monique. Je rentrais tard à la maison. Je ne mangeais pas sous prétexte que le repas était mal cuit. En tout cas, j'avais toujours quelque chose à reprocher à Monique. Chacune des actions de la jeune fille me mettait en colère. Et je trouvais je ne sais quel malin plaisir à lui faire mal.
Eh bien, je voudrais aller de temps en temps à la maternité d'Aboisseau pour prendre des soins.
Ma mère n'a pas eu besoin des soins d'une sage-femme pour me mettre au monde. Et puis je n'ai pas d'argent pour couvrir des frais inutiles. Monique baissa les yeux. Elle faisait de gros efforts pour ne pas pleurer.
Mais ce ne sont pas des frais inutiles. Et puis tu sais, j'ai de fréquents maux de ventre et des démangeaisons.
Je te dis que je n'ai pas d'argent. Et je sortis en sifflotant. Au seuil de la porte, elle me regardait marcher et je sentais désagréablement ce regard triste sur mon dos. Malgré tout, Monique a essayé de sauver notre ménage. Elle a essayé de me ramener à la réalité. Elle me disait que rien ne nous empêchait d'être heureux. Quand elle me disait cela, je la regardais avec un sourire ironique. Et je mettais un terme à l'entretien par cette phrase amère. C'est pour me donner ce bonheur qu'une nuit, tu es entré dans ma chambre à Bassam. Quand je rentrais du travail, je la trouvais propre et presque gaie. Elle m'accueillait avec un sourire qui m'aurait ému autrefois. Mais je ne répondais pas à ce sourire. Je me mettais à table, mangeais le nez dans mon assiette et allais écouter mon poste de radio. Je la sentais blessée. Mais elle dominait sa douleur. Et c'est précisément ce qui accroissait ma colère. Elle ne pleurait pas. Elle venait s'asseoir tout près de moi pour me parler.
Eh ben, tu te souviens de nos promenades la nuit à Bassam? Nous étions si heureux.
Ah, je me rappelle, bien sûr. Nous avons été heureux avant l'heure. C'est là la cause de notre drame.
Mais qu'est-ce qui nous empêche d'organiser notre vie? De connaître le bonheur.
Je crois qu'on ne peut être heureux qu'avec une personne qu'on aime. Certains couples ont au moins la mince satisfaction de pouvoir dire « Notre union a été une erreur. Si nous avions su, nous ne nous serions pas mariés. Moi, je n'ai même pas eu le choix. » Monique ne broncha pas. Aucun trait de son visage ne se crispa. Elle resta silencieuse un moment.
Eh bien, tu ne comprends donc pas ce que notre vie a d'absurde?
Toute existence est absurde et cela me déplaît que tu te sois nourri de Camus.
Je ne connais pas Camus, mais je te demande un peu de réalisme. Pourquoi cherches-tu à me faire souffrir alors que je ne veux que ton bonheur?
Elle parlait doucement et son visage légèrement levé vers moi semblait m'accuser. Tu devrais pourtant savoir ce que j'attends de toi, Monique.
Oui, je sais.
Pourtant, nous avons continué à mener la même existence. Des mois se sont écoulés et ma cruauté se développait. Dans le foyer, l'atmosphère était irrespirable. Un soir, je vins chez moi avec la fille d'un manœuvre. Monique était allée en brousse casser du bois mort. Quand elle rentra, elle me vit avec l'autre fille. Elle resta au seuil de la maison comme pétrifiée et puis mollement, elle s'écroula au sol. Elle s'était évanouie. Quand elle revint à elle, elle était étendue dans son lit et j'étais seul auprès d'elle.
Eh ben, tu ne m'épargneras donc aucune peine.
C'était la première fois qu'elle pleurait devant moi depuis notre mariage. Je n'essayais même pas de me justifier. Je me levai et sortis de la chambre.
Ce fut un mois après cette scène qu'eut lieu l'accouchement de Monique. J'en fus surpris. Monsieur Rouget n'était pas là et il n'y avait pas de voiture pour transporter la jeune femme à la maternité d'Aboisso. Alors, j'eus peur, car je compris que Monique pouvait mourir. À la plantation, je n'avais pas d'amis. Comment faire? Je me souviens qu'une femme avait déjà accouché à la plantation sous les soins de la vieille femme du manœuvre Cabouret. Je m'en fus chez le manœuvre. Il était là. Je lui expliquai ce qui se passait et sollicitai sans honte l'aide de sa femme. Le Mossi ne fit aucune histoire. Il pria la vieille femme de venir assister Monique. Il advint que l'accouchement de la jeune femme fut très difficile. La vieille Madame Cabouret passa toute la nuit au chevet de Monique. Elle essaya tous les procédés indigènes, mais cela allait mal. Ce fut seulement le lendemain vers 15 heures que l'enfant vint au monde. Il était mort-né. Ah, aujourd'hui ce cadavre aussi me hante. Le premier cadavre que je voyais de ma vie. Le cadavre d'un enfant à peine né. Un tout petit corps étrangement frêle et mou. On l'enterra et j'eus à apprendre la nouvelle à ma femme. Je suis entré dans la chambre encore faiblement éclairée par la douce lumière crépusculaire. J'ai regardé. Elle était couchée sur des draps blancs et comme elle était épuisée par les efforts fournis, elle dormait. Pendant un court instant, j'ai eu pitié de ce visage-là, ce visage si beau dans son repos. Je me suis approché de Monique et tout doucement j'ai pris sa main comme à Bassam autrefois. Elle a ouvert les paupières et, surprise de me voir auprès d'elle, elle m'a souri. Et puis elle a regardé dans les langes sans voir son enfant.
Moéba, s'il te plaît, je veux voir notre enfant. Il te ressemble, n'est-ce pas?
Je ne cherchais pas à adoucir la dramatique nouvelle que je lui apportais. Tu ne le verras jamais, Monique. Il est mort. J'ai vu alors les yeux de la jeune femme s'agrandir énormément. Et elle a hurlé. Un hurlement terminé par une sorte de râle d'un animal en agonie. Ensuite, elle est restée immobile et a fermé les yeux. Moi, j'ai senti ce cri funèbre traverser tout mon être et j'ai eu réellement pitié de Monique. Pour la première fois, j'ai su Monique très malheureuse et j'ai compris qu'elle avait besoin d'affection. J'ai voulu la prendre dans mes bras, la réchauffer et lui dire de douces paroles, mais il y avait encore en moi quelque chose d'animal qui m'empêchait de m'adoucir. Je suis sorti et j'ai laissé Monique presque sans connaissance.
Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.
Sur insistance de sa mère, Ebinto se résigne à prendre Monique pour épouse. Avec pour seul diplôme le BEPC, Ebinto, après plusieurs tentatives infructueuses, est embauché comme contremaître pour le compte d'un grand planteur de bananes situé à Ayamé. Amer et révolté contre la vie, Ebinto se considère désormais comme un rien du tout et décide d'emprunter la voie du mal. Monique devient alors son souffre-douleur, taxée par lui d'être l'unique cause de tous ses malheurs. Perception égoïste et erronée du cours de sa vie qui va pousser Ebinto à faire montre d'une indifférence cynique et glaciale à la mort de l'enfant, de leur enfant que portait Monique. Nous proposons donc aujourd'hui, amis auditrices et auditeurs, la suite de ce récit avec la lecture radiophonique du chapitre 3 de la partie 2. Retrouvez dans cette lecture radiophonique les voix de Sonia Nzian dans le rôle de Monique, Aoussi Potin dans le rôle de Ebinto, Junior Cardin dans le rôle du chauffeur, Ghislain Koulibaly dans le rôle de Monsieur Mouget et Zeynab Diomandé dans le rôle de Madame Kaboré. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne écoute de notre lecture radiophonique.
Les frasques d'Ebinto, partie 2, chapitre 3.
Je m'étais montré presque insensible à tout ce qui était arrivé. Madame Kaboré soignait Monique. Elle racontait à son mari ma conduite inhumaine.
On dirait qu'il veut tuer sa femme.
Un jour, je fus convoqué par M. Rouget. Quand je me présentai devant lui, je le trouvai assis à sa table de travail. Il semblait soucieux et n'avait pas cet air tout militaire dont il s'était fait une seconde nature.
Asseyez-vous.
Je m'assis.
Je vous ai appelé à propos d'une affaire particulière. Je suis assez âgé et je puis être votre père. Vous me permettrez d'entrer dans votre vie privée.
Je vous écoute.
Madame Kaboré est venue me voir et m'a prié d'intervenir auprès de vous pour que vous ménagiez un peu votre femme. Elle m'a tout raconté. Je ne peux pas vous obliger, mais je voudrais seulement vous donner des conseils.
Je l'écoutais parler et j'avais envie de sortir du bureau et de claquer la porte par derrière.
Quelles que soient les raisons de votre attitude vis-à-vis de votre femme, je vous prie de croire qu'elle souffre plus qu'elle ne vous a fait souffrir. Toujours, on regrette plus tard d'avoir pris plaisir à faire mal. Pardonnez-lui le mal qu'elle vous a fait.
Le mal qu'elle m'a fait, on ne peut pas l'évaluer. Elle a brisé ma vie, déçu mes ambitions, fait de moi un malheureux petit contremaître de campagne perdu dans la brousse. Ignorant même ce qui se passe dans le monde.
Le bonheur consiste dans l'égalité des désirs et des forces.
J'ai lu Fromentin moi aussi. C'était au moment où je croyais encore à l'avenir, au moment où je pensais pouvoir vivre un jour.
Il ne tient qu'à vous de vivre.
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui attendent quelque chose de la vie.
Ce quelque chose qu'on attend, il faut lutter pour l'avoir. Et Hugo l'a dit avec raison, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Savez-vous seulement ce que c'est que le bonheur?
J'ai cherché une définition, mais en vain. Aucune citation ne me venait en mémoire et j'en eus honte.
Voyez-vous, j'ai été jeune comme vous. J'avais des ambitions. J'étais riche, j'avais toutes les possibilités et puis la guerre est venue. J'ai alors tout perdu. Enfin, après beaucoup d'autres vicissitudes, je suis aujourd'hui un planteur. Durant ma vie, j'ai longuement réfléchi sur la vie et le bonheur. Je suis arrivé à une conclusion qui est en elle-même un sujet de méditation. La vie est absurde. Car voyez-vous, ceux que les personnes dites censées appellent malheureux sont en fait heureux. Les jeunes gens insouciants qui s'étourdissent dans les plaisirs sont heureux. L'ivrogne qui boit, tombe dans un fossé et y dort est aussi un bienheureux. Oui, tous ceux-là, n'étant pas conscients de leur misère, croient à l'illusion d'être heureux, et ils le sont. Car qu'est-ce que donc que le bonheur? Une illusion que nous poursuivons en vain? La joie est du bonheur, un peu plus éphémère, et quoi qu'on dise, le bonheur n'est lui aussi qu'un état passager, comme toute illusion. Le bonheur est tout près de nous, et savoir garder l'illusion d'être heureux, tout est là.
Je ne pense pas que le vrai bonheur soit une illusion, sinon la vie s'arrêterait au rêve d'être ce qu'on veut être.
Vous avez toute la vie pour méditer sur la question. En tout cas, j'insiste pour que vous ménagiez votre femme et sachez que vous aussi, vous avez tout pour être heureux.
Je pris congé de Monsieur Rouget. À partir de ce jour, je m'adoucis. Je fis plus attention à Monique. Je me rendis souvent à son chevet. Mais elle ne me parlait presque jamais. Ma présence près d'elle troublait plutôt son calme. Elle me regardait avec effroi et restait dans un mutisme qui m'agaçait. Cependant, Monique se remettait lentement. Elle resta 3 mois au lit. Puis, petit à petit, son état s'améliora. Elle se releva, s'habitua de nouveau aux travaux du ménage. Mais très tôt, je compris que quelque chose était changé en Monique. C'était comme un manque de vie. Quelquefois, elle fixait un endroit où il n'y avait rien de remarquable. Souvent, quand je lui parlais, elle écoutait sans rien comprendre, comme une idiote. Et elle disait...
Pardon, tu disais quoi? Je n'ai pas compris.
Certains jours, je devenais doux et essayais d'amuser la jeune femme, mais jamais elle ne souriait. Elle avait perdu le sourire. D'autres jours, par contre, mon animosité se réveillait et je me montrais grossier et amer. Mais ma colère, mes insinuations blessantes semblaient ne plus avoir d'effet sur Monique. Elle les écoutait, semblait ne pas les comprendre et disait
« Pardon ».
En fait, Monique vivait près de moi, mais elle était absente, indifférente à tout. Cette attitude ambiguë me glaçait de froid et me faisait réfléchir. À quoi est-ce que je pensais au juste? En tout cas, pas à Muriel. Je crois que je l'avais oublié tant j'étais absorbé à assouvir ma vengeance. Mais si je l'avais oublié, si sa pensée ne me mouvait pas, c'était donc que je ne l'aimais plus. Ah oui, il est arrivé un moment où je ne savais plus ce que je voulais, où je ne voulais plus rien. Ce fut quand je compris l'inutilité de ma vengeance. Ce fut quand le monde m'apprit que je n'y avais encore rien compris. Pourtant, mon Dieu, j'ai essayé de comprendre. J'ai seulement rejeté l'idée que le bonheur s'acquiert par la faculté d'adaptation aux situations que les circonstances fortuites nous réservent. Un soir, je me sentis pris de frissons soudains. Je résistais à la fièvre, mais le lendemain, je fus obligé de garder le lit. J'avais mal à la tête et aux articulations de mes membres. Ma bouche pâteuse avait un goût amer. Ma gorge était sèche. Le 3e jour, mon état ne s'améliora pas malgré les comprimés de Nuvaquine que Monique m'avait fait prendre. Je grelottais de froid alors que je transpirais. Je faisais d'affreux cauchemars et je divaguais. Madame Caboret, qui était devenue l'amie de Monique, diagnostiqua que c'était du Gyakwajo. Elle poussa la bonté à me préparer le remède qui avait guéri son mari. Elle apporta les feuilles et l'écorce d'un arbre. On me mit la sève rouge sur les ongles, puis on mit les feuilles et l'écorce à bouillir dans un canari. Quand tout eut bien bouilli, on renversa la décoction dans un seau. Je m'assis sur un tabouret près du seau et je fus recouvert par un grand drap. Je fus baigné par la vapeur et quand on me découvrit, je transpirais à grosses gouttes. Ensuite, je me lavai avec la décoction refroidie. J'en bus quelques gorgées, elle était amère. Ma santé ne s'améliora pas immédiatement. Tout en suivant le même traitement, je gardais le lit. J'étais extrêmement faible et je ressentais une très grande fatigue. Mes muscles refusaient de faire le moindre effort. Mais avec le temps, je commençais à reprendre mes forces. Monique était toujours près de moi. Elle était douce et affectueuse, mais toujours silencieuse. Un jour, je lui demandai de me faire la lecture et elle choisit Les Misérables de Victor Hugo. Elle se mit à lire, à parler de la misère humaine que Hugo a si bien peinte. J'ai écouté Monique et il m'est venu à l'idée que j'étais moi aussi un misérable d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, Jean Valjean est un misérable, Javert aussi, Thénardier pis encore. Seulement, il y a des nuances à leur misère. Certains essaient de sortir de la boue dans laquelle la nature les a mis, de lutter pour le bien et d'atteindre un certain idéal, ainsi Jean Valjean. D'autres croient toucher à l'idéal, mais sans le savoir. Ils sont misérables par leurs agissements inhumains, Javert par exemple. D'autres par contre plongent tête baissée dans le crime et connaissent la misère sous toutes ses formes. C'est le cas de Thénardier. Mais moi, en quoi étais-je comparable à ces personnages? J'avais voulu une vie idéale, certes, mais que j'aurais pu réaliser si des circonstances encore banales n'avaient pas détourné le cours de cette vie? De ma déception était née la misère, la vraie misère, celle de l'âme.
J'étais tombé bien bas dans la bassesse morale jusqu'à m'acharner sur Monique. La voix de la jeune femme me berçait, mais je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Je jugeais la société, la méprisant, la rendant responsable de la souffrance humaine et oubliant que ce sont les hommes qui font la société, donc qui sont responsables de leur propre misère à cause de stupides préjugés, d'idées fausses, de vénalités. Je commençais seulement à avoir honte de ma conduite vis-à-vis de Monique. Deux semaines s'étaient écoulées et je me remettais lentement. Le soir, Monique me faisait faire de courtes promenades sur la route bordée de verdure. Nous marchions doucement. Encore faible, je m'appuyais sur Monique et j'éprouvais une douce sensation au contact de son corps. Quelquefois, nous nous arrêtions au ruisseau qui était tout juste à la sortie de la plantation. Nous écoutions le flot rouler sur les galets verdis par la mousse. Je posais ma tête fatiguée sur l'épaule de Monique et j'aimais écouter le battement régulier de son cœur. « Monique, pourquoi es-tu toujours silencieuse? Parle un peu, dis quelque chose. »«
Mais je suis bien ainsi. » »«
J'ai besoin de ta voix, Monique. Elle me fait plaisir. » C'était vrai. Sa voix me faisait plaisir. J'avais besoin de sa présence et de sa chaleur. Je le lui disais et j'étais surpris de voir qu'elle ne sautillait pas de bonheur. Elle gardait son attitude calme et d'un ton doux et égal, elle me répondait.
Je suis heureuse que ma présence près de toi te fasse du bien.
Un jour, comme nous n'avions plus de provisions, Monique décida d'aller à Boisseau acheter le nécessaire. Un camion chargé de bananes et qui allait jusqu'à la ville devait la prendre. Je suis vraiment navré de ne pouvoir aller moi-même faire ces achats, Monique. Je ne voudrais pas que tu ailles souffrir en ville à chercher des portefeuilles pour transporter ce sac de riz.
Oh, tu sais, cela ne fait rien. C'est la vie et il faut tout accepter jusqu'à un certain point.
Tout accepter, elle l'avait fait, elle. Accepter et lutter, c'était l'essentiel. Et je ne l'avais pas compris. Monique partit. J'étais encore en convalescence et je n'avais pas repris le travail. Je restais donc seul à la maison. Tout était calme autour de moi. Et cela m'indisposait. J'avais peur du silence parce que j'avais peur de réfléchir. L'absence de Monique me pesait plus que je ne l'aurais imaginé. Je compris peu à peu que malgré ma haine, je m'étais habitué à ma femme et qu'elle faisait étrangement partie de moi-même. Je me mis à flâner dans la maison et eus l'idée d'aller chercher un livre dans la vieille caisse où je conservais les volumes que j'avais amenés d'Akounoubé. Cela me fit du bien de revoir des livres que j'avais dévorés autrefois. Depuis combien de temps n'avais-je plus ouvert un roman, un recueil de poèmes? Depuis que je ne croyais plus tirer quelque chose des livres qui me servaient dans la vie. Je continuais de fouiller la caisse et je fus surpris d'y découvrir le Phédon de Platon. Un livre dans lequel seule une anecdote m'avait intéressé. C'était le mythe du chant du cygne. Je lus ces lignes. Quand ceux-ci, les cygnes, sentent en effet venir l'heure de leur mort, le chant qu'ils avaient auparavant, ce chant se fait alors plus fréquent et plus éclatant que jamais dans leur joie d'être sur le point de s'en aller auprès de Dieu dont ils sont les servants. Mais les hommes, avec leur effroi de la mort, calomnient jusqu'aux cygnes. Ils se lamentent, dit-on, sur la mort. La douleur leur inspire ce chant suprême. Je refermai le livre. Je me dis qu'il se pourrait que je chante moi aussi si j'étais près de la mort. Tout est si absurde. Et quand on découvre l'absurdité de la vie, on ne peut vivre qu'à la condition d'avoir un idéal et assez d'espoir pour l'atteindre. Il faut de l'espoir, mais il ne faut pas passer son temps à le poursuivre, car alors l'espoir devient un but. On ne vit plus. On attend de vivre et on est surpris par sa fin. Le soir tombait sur la plantation.
Monique n'était pas encore revenue. Elle attendait sans doute le camion de bananes puisqu'il n'y avait pas d'autres occasions. Je me mis à marcher lentement sur la route, pensant rencontrer le camion. Il n'en fut rien. La nuit tomba et plongea la plantation dans une obscurité opaque. Des lampes tempêtes éclairaient les cases des manœuvres et leur faible lueur se répandait sur les seuils. Seul chez moi, je marchais de long en large. Monique n'était pas encore rentrée. Le camion était en retard et ce fait inhabituel m'angoissait. Que pouvait-il être arrivé? À mesure que la nuit avançait, mon angoisse grandissait. Je me sentais très nerveux. Une chaleur subite m'habitait et une sueur froide mouillait mon corps. Soudain, le bruit d'une automobile se fit entendre. Le ronronnement du moteur grandissait et les phares trouaient la nuit obscure. Ils arrivaient. Le poids lourd s'arrêta. Malgré ma faiblesse, je me ruai près de lui. « Monique !» Je n'eus pas de réponse. Le chauffeur descendit de la cabine. Il était seul. « Où est Monique ?»«
Ah, bonsoir, monsieur Binto. Justement, c'est madame qui a causé tout ce retard. » Elle a fait les achats et puis elle est partie je ne sais où. J'ai attendu tout le temps. Elle est revenue très tard, m'a remis cette lettre pour vous et puis elle est partie.
Je pris la grande enveloppe que l'homme me tendait. Mon cœur battait à se rompre. J'avais peur de comprendre.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.